Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons en Haïti et en Bulgarie. À Sofia, exactement, où l'écrivain Romain Gary a été diplomate après la Seconde Guerre mondiale et où il aurait été sous haute surveillance des services secrets bulgares. C'est ce que nous racontera Alexandre Lévy, auteur d'une enquête passionnante publiée dans le nouveau magazine Books, notre partenaire. Ce sera tout à l'heure en fin d'émission. Mais pour commencer, direction Haïti, où est né notre invité, Dimitri Elias Léger, qui dans son premier roman revient sur le terrible séisme de janvier 2010 sur sa terre natale. Intitulé « God Loves Haïti », le livre écrit en anglais vient d'être traduit chez Caraïbes Éditions. Et avant de retrouver l'auteur, voici un extrait du roman.
Alain ne pensait plus de la même façon depuis le tremblement de terre. Une seconde après avoir repris conscience, à même le sol trahi par la terre, et après des jours et des jours à regarder, impuissant, des montagnes de cadavres s'amoncelaient partout autour de lui, avant d'être déblayé puis retiré de la vue comme des ordures, il ne parvenait toujours pas à comprendre pourquoi il avait le droit de vivre, alors que tant de personnes étaient mortes, pendant et après ces 35 secondes fatidiques. Le bilan du tremblement de terre et de ses répliques oscillait désormais entre plusieurs milliers et un million de victimes, d'après les informations diffusées par Radio Guinée. Sachant parfaitement que le chiffre exact se situait quelque part au milieu, soit un demi-million de morts, avec un peu de chance, Alain trouvait que c'était quand même beaucoup pour Haïti, limite grotesque. Il n'avait pas trouvé la force de pardonner à Dieu.
Bonjour Dimitri Elias Léger.
Bonjour.
Après cette lecture extraite de votre roman « God Loves Haïti », traduit de l'américain par Patrick Imbert et qui vient de paraître chez Caraïbes Éditions, on a donc entendu une scène qui se déroule il y a 11 ans en Haïti, suite au séisme qui a frappé l'île. Où est-ce que vous vous trouviez en ce terrible 12 janvier 2010, Dimitri Elias Léger ?
Je dormais chez moi, en Haute-Savoie. Comme je me suis réveillé, ma femme m'a dit qu'il y a eu un séisme en Haïti, mais elle avait l'air très inquiète. Et puis, je suis allé voir le CNN, et puis là, j'ai vu les horreurs. Et immédiatement, je pensais à ma famille. J'ai 5 cousins, leur mère, ils ont tous 2 enfants chacun, même âge que les miennes. Donc, j'étais très inquiet pendant 2 jours. Et finalement, après 2 jours, j'ai eu leur nouvelle. Ils ont eu la chance que personne ne s'est blessé. Et à ce moment-là, j'étais très content, très ému. Et j'ai contacté mes copains qui travaillaient pour l'ONU. Et je me suis dit, bon, je suis prêt. Je suis partant pour une mission là-bas pour aider les choses.
Donc, pour bien comprendre le contexte, à cette époque, vous vivez en Europe,
oui.
À Genève, précisément en Suisse, alors que vous avez passé aussi la plupart de votre existence aux États-Unis. Mais vous êtes né à Port-au-Prince.
Oui.
D'où cet attachement viscéral, évidemment, que vous avez avec cette île où il y a encore, comme vous le disiez à l'instant, votre famille. Donc vous êtes parti, ça a été votre façon de traverser cette tragédie en allant sur place ?
Et aider la chose. Je suis allé en mission humanitaire. J'étais porte-parole pour la mission humanitaire de l'ONU, surtout l'agence qui gérait, qui essaie d'aider les femmes et les filles.
Mais quand vous êtes arrivé sur place, ça a dû être un choc, le chaos total.
Oui. D'un côté, de notre côté, je me souviens que on a atterri en Haïti et puis je descendais de l'avion. Et puis quand tu descends l'avion en Haïti, tu rentres pas directement dans l'aéroport. Tu descends les escaliers, tu arrives sur terre. Donc immédiatement, tu es frappé par le soleil. Et c'était 2010. La dernière fois que j'étais en Haïti, c'était en 1986. Ça faisait 24 ans. Et puis le soleil m'a frappé, j'ai dit « Ah, je suis chez moi !» Ça, c'était ma première réaction. Mais après ça, tu rentres dans la voiture, et puis tu sors de l'aéroport, et puis tu commences à te rendre compte que la ville est détruite. Quand j'ai vu le palais national détruite, là, ça m'a frappé l'énormité du désastre.
Et à quel moment, Dimitri Elias Léger, décidez-vous d'écrire un roman sur ce sujet? Est-ce parce que, justement, il y avait une ampleur si forte, une expérience sur place si traumatisante que vous vouliez le transmettre par l'écriture, ou vous aviez déjà en vous cette envie d'être romancier?
J'avais déjà cette envie. Je suis écrivain toute ma carrière. C'est la seule chose que je peux faire facilement, occasionnellement bien. Et j'ai écrit, j'ai fait des papiers comme journaliste, j'ai écrit pour la télévision, j'ai écrit pour la radio, des discours pour des chefs d'État et des PDG. Éventuellement, il fallait écrire un roman. C'est le dernier défi qui me restait comme écrivain. Et puis, quand j'étais en Haïti pour travailler après le CIS, je pensais pas au roman. Je pensais que ma vie dans une tente, le fait que ma famille me manquait à Genève, il y avait tellement de travail à faire. On travaillait 7 jours par semaine. Éventuellement, on a eu dimanche congé. Je dormais dans une tente que je partageais avec 20 autres hommes. So, on était chacun un petit bulle dans une grande tente. On travaillait tout le temps, c'était mieux. Et mon quartier, à Port-au-Prince, s'appelle Carrefour. C'est le quartier qui était l'épicentre du séisme. Et un jour, j'ai amené un collègue à l'hôpital de Carrefour, l'hôpital où j'étais né d'ailleurs. Et puis, et après ça, j'ai dit, bon, on peut passer à la maison vite fait. Parce que ma maison est toujours là. Et on passait à la maison, et puis j'étais arrivé dans mon quartier, c'était le même quartier. La maison était toujours debout. Je suis entré dedans. Le gardien qui prenait sur la maison, il m'a reconnu. Et j'ai vu un gros crack dans la maison. Ça a été dommagé par le séisme, mais c'est pas tombé. Et il y avait beaucoup de maisons comme ça. Ça veut dire que, au prochain coup de vent, au prochain pluie, n'importe quand, ça pourrait tomber. Si on est rentré, retour va, embrasse, et puis on regarde la maison, et puis moi, j'étais à la maison, je dis, OK, waouh. C'est le salon comme je l'ai laissé, ça fait 24 ans, parce que mon père vivait, mais il a décédé en 2004. Mais j'ai vu le crack, j'ai dit, ah, on peut pas rester. Il fallait courir et sortir. So, j'ai écrit un petit papier sur ça dans le New York Times après 3 mois. Et un agent littéraire m'a contacté. M'a dit, hey, tu veux écrire un livre, mémoire, t'es expatrié, travailler pour l'ONU en Haïti après le séisme. J'ai dit non. Mais il m'a contacté chaque mois pour me demander, hey, ça va. J'ai dit, ouais, je dors pas et je suis fatigué, ma famille me manque. Mais autrement, tout va bien. C'est juste que après, je suis retourné à Genève en août 2010. Là, j'ai commencé à penser au plaisir que j'ai eu pendant les 6 mois, les 8 mois en Haïti. Pas seulement que j'ai pas dormi et puis j'ai vu des atroces, mais j'ai pris du plaisir. J'ai vu ma famille, mes cousins, commencer à se reconstruire, commencer à se réorganiser, revivre en Haïti. Mais pendant ces 8 mois avec eux, en écoutant leur histoire, et aussi en mangeant bien et dansant de temps à autre, ces souvenirs me sont revenus. Et puis là, je me suis dit, ah bon, je vais écrire un roman.
Donc voici ce roman qui raconte le séisme vécu par 3 personnages essentiellement. Natacha, artiste, sculptrice, son mari Jean, qui n'est ni plus ni moins que le président de la République d'Haïti, et Alain, dont on a entendu la voix au début de cette émission, qui a une relation adultère avec Natacha. 3 personnages, donc, dans un trio amoureux, qui vont tous avoir une révélation suite au séisme. Et pour commencer, le président, sur le point de quitter Haïti, de quitter ses fonctions officielles, parce que, dit-il, ce peuple me laisse à bout de force. Et de fait, c'est aussi le constat d'une nation en détresse depuis très longtemps que vous dessinez ici, Dimitri Elias Léger, avec l'idée que le gouvernement ne s'est pas préparé à la catastrophe naturelle, d'où la colère qu'on entend aussi dans ce livre. Vous aussi, vous avez été en colère?
Oui. Contre les architectes, en colère contre l'histoire, en colère contre Dieu. En colère contre tout. C'est difficile d'avoir un pays qui souffre tellement. Et puis c'est difficile aussi d'avoir un pays qui est aussi beau, que les gens sont aussi charmants. Un pays qui offre tellement de charme, mais on peut pas visiter ou vivre dedans de manière consistante et calme et prévisible comme on peut ailleurs. La République dominicaine, le Bahamas, même Cuba, vont un peu mieux que nous. Et c'est frustrant.
Et en même temps, il me semble avoir lu dans votre roman, Dimitri Elias Léger, une critique des gouvernants, une critique de la présence américaine, des nombreux casques bleus, un constat de la misère, comme en témoigne Natacha d'ailleurs, l'épouse du président qui est une artiste. Elle fait des sculptures avec des déchets. Elle est jeune et elle s'est sans doute mariée avec le chef de l'État, plus par sécurité que par amour, avec surtout le vœu de quitter le pays dès que possible. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, cette femme ?
Elle est une artiste pure. Les artistes doivent construire leur carrière, construire leur œuvre avec rien. Décider de devenir artiste et créer des œuvres, c'est se faire violence déjà dans un monde qui n'a pas besoin de toi et ton travail. Et après ça, faire violence pour que ton travail ait trouvé une audience. Et pour moi, elle représente l'artiste pur.
Mais son désir de quitter l'île à tout prix, et en l'occurrence, là, au moment du séisme, elle est sur le tarmac de l'aéroport, prête à monter dans l'avion avec son mari, destination l'Italie. Vous comprenez ça, cette envie de partir, de quitter Haïti, absolument ?
J'ai quitté Haïti, j'ai quitté les États-Unis, j'ai quitté la France. Oui, je comprends le désir de voyager, le désir de... découvrir de nouveaux mondes, découvrir de se voir dans d'autres milieux. Je connais beaucoup de gens qui ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs, et leur pays qui sont d'ailleurs plutôt agréables. Ma femme est suédoise, je l'ai traînée à travers les États-Unis et à Genève, qui n'est pas la Suède. Mais je dirais que retourner à la maison est aussi fondamental comme impulse.
En tout cas, Natacha, elle va rester à la maison par la force des choses. Son mari de président aussi. Et d'ailleurs, ils vont survivre non seulement au séisme, mais chacun de leur côté, ils vont reprendre leur vie en main. Et puis, il y a Alain, ce jeune garçon, l'amant, qui lui fait une autre expérience, celui des camps de réfugiés, qui sont créés donc à l'improviste dans la rue où ont été jetés près d'un million et demi d'habitants de Port-au-Prince. Là, il est soigné, il croise un enfant orphelin, Xavier, dont les parents, dont la mère est morte, avec le toit qui s'est écroulé sur sa tête. Une star américaine venue faire du bénévolat. Et au milieu de tout ça, lui va se remettre en question et questionner son... haïtianité. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce mot-là, Dimitri Elias Léger ?
Oui, le pays n'a jamais été facile. C'est le coin le plus beau du monde et un peuple quasiment le plus beau du monde. On a la musique, on mange bien, on a les plages, mais en même temps, on est totalement vulnérable contre les incidents de l'environnement. Les ouragans et l'océan se lève, à faire couler les îles, et maintenant il y a des séismes. So, on est vulnérable, mais on est beau et on s'amuse. Parce que le fait que le pays n'a jamais été facile à vivre, comme si c'est jamais facile d'être noir dans le monde entier, ça vous donne du caractère, ça te rend costaud. Parce que tu sais, on ne peut pas être relax, on ne peut pas vraiment lâcher prise quasiment nulle part, parce que c'est jamais facile d'être nous dans le monde. Ça n'a jamais été facile. Haïti est unique parce qu'elle a forcé son indépendance, la fin de l'esclavage par force contre la France. Et c'est notre grande fierté. Et l'ironie d'être devenu pauvre quasiment à cause de la refus d'être esclave et de vouloir être libre, c'est l'ironie, c'est une contradiction, c'est l'effet d'être haïtien et... On gère parce qu'il faut avoir la fierté d'être indépendant, mais en même temps, il faut aussi constater que l'indépendance a été chère.
Donc c'est ça en fait, c'est l'identité haïtienne. Et dans ce livre, avec la catastrophe qui interroge l'humanité, qui interroge le pays, sa politique, le roman interroge aussi la religion. Et Dieu, à l'image du titre, God Loves Haiti, Dieu aime Haïti. Tout le roman est traversé effectivement par des références religieuses. Le paradis, l'enfer, le purgatoire, des références à Dante. Il y a même une scène de rêve avec le président qui arrive devant Saint-Pierre et devant lui tous les anciens présidents d'Haïti qui plaident leur cause. Sans oublier le choix final effectué par Natacha dont je ne dis rien. Est-ce qu'il faut être croyant pour vivre en Haïti?
Il faut, d'ailleurs il faut vivre. Après ça, il faut rêver. Je ne connais pas d'humain qui ne rêve pas. Et puis quand on rêve, je suis sûr qu'il y a un grand pourcentage de la planète qui rêve de la vie après la mort. Et ce pourcentage-là existe aussi aux Haïti. On est tous des rêveurs. En fait, les Haïtiens, je dirais même, on rêve trop parce qu'on est arrivé d'être indépendant quand personne d'autre n'osait. So, du coup, pour moi, la vie et les rêves et l'amour s'entremêlent tout le temps. Et si on rêve d'une bonne vie, un réflexe d'une bonne mort vient avec. Et après ça, c'est pas trop osé de rêver d'un bon après-mort.
Oui, et clairement l'idée de la rédemption, qui est un grand thème dans ce roman.
Oui, oui. Le roman touche à une émotion ou une tendance universelle de chercher à faire mieux après avoir ressenti une grande crainte, une grande peur. Il faut avoir un moment de réflexion et un moment de « c'est incroyable ce qui s'est passé ». Peut-être il y a des moments de relâchement qui vient avec. Maintenant, j'ai une deuxième chance à la vie. Allez, on fait la fête, allons, on danse. Mais après ça aussi, il peut y avoir un moment de... Maintenant, on doit faire mieux comme être humain. T'as une deuxième chance à la vie, troisième chance à la vie.
On l'a entendu depuis le début de cette émission, Dimitri Elias Léger, vous vivez aux États-Unis où vous êtes allé tout petit. Ce n'est pas un choix. Vous avez suivi vos parents quand vous étiez presque bébé, n'est-ce pas?
Ouais. Ouais.
Et de fait, c'est un livre qui est écrit en anglais. Est-ce que vous considérez donc que l'anglais est votre langue maternelle plus que le français ou le créole aujourd'hui?
Non, parce que ma mère est haïtienne et à la maison, on parle que français. Ma mère et mon père et ma famille, plutôt, on parlait plutôt français. So, littéralement, ma langue maternelle est français. Mais pour des raisons pratiques... J'ai fait ma carrière en journaliste en anglais à New York. Et quand c'était temps d'écrire un roman, c'est plus efficace. Je me sentais le temps. Une des façons que le séisme m'a marqué moi-même, c'est que ça m'a montré que la vie est très courte et on ne sait pas comment ça peut finir, soudainement. So, du coup, j'ai écrit le livre dans 11 mois. J'ai dit non, je vais avoir 40 ans, on va... assez le rêve, je ne vais pas me regarder, réfléchir. On commence, on finit. Et l'écrire à fond, avec toutes mes idées, toutes mes passions, toutes mes convictions, pour que si c'est mon dernier, c'est mon dernier. Moi, je vis toujours entre les langues, entre les pays. Et dans mes conversations avec mes amis haïtiens, américains, ou espagnols, américains, ou dominicains, latins, américains, les phrases commencent en anglais, finissent en espagnol, commencent en français, finissent en anglais. On mélange les mots, on mélange la culture et il n'y a jamais eu une distinction pour moi.
Mais vous devez être content que ce livre soit traduit en français et qu'il puisse être lu en Haïti, justement.
Oui, ça me tenait énormément au cœur. Ça, c'est à Caraïbes Édition, ils sont super d'avoir pris la chance. Parce que je pense en français, j'écris en anglais. Donc quand je le relis en français, je me dis, ah ouais, c'est la langue originale. C'est la langue originale dans ma tête. Le traducteur a fait un bon travail. Je l'adore. So, oui, les lecteurs qui vont lire ce livre en français vont lire la version originale d'un côté, parce que c'est la version dans ma tête, mais que la version que j'ai écrite en premier lieu était en anglais. Mais où je suis, j'amène Haïti avec moi.
Merci beaucoup, Dimitri Elias Léger, d'être venu aujourd'hui à RFI nous parler de ce roman « God Loves Haïti » qui a été traduit de l'américain par Patrick Humbert et qui paraît chez Caraïbes Édition.
Merci à vous.
Yeah. Oh yeah. No.
Et voici l'heure de notre rendez-vous bimestriel avec le magazine Books, dont le nouveau numéro actuellement en vente pose en couverture une question fondamentale. Pourquoi croit-on en Dieu? Je ne sais pas ce qu'en aurait pensé Romain Gary, mais toujours est-il que c'est de cet auteur que nous allons parler maintenant, grâce à un article dans Books signé d'Alexandre Lévy, avec qui nous sommes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez donc une enquête littéraire édifiante aux confins de l'espionnage, voire du quiproquo, ou en tout cas d'une blague presque, à partir de l'expérience de Romain Gary à Sofia, où il était comme secrétaire à l'ambassade de France entre 1946 et 1948. Et donc là, dans ce contexte, juste après la Seconde Guerre mondiale, vous le rappelez, on est déjà presque dans la guerre froide, Romain Gary raconte... Mais cela, il le fera sans doute plus tard. Comment il aurait été contacté par les services d'espionnage bulgares qui auraient essayé de lui faire du chantage pour le recruter, c'est ça?
Oui, alors il est abordé par deux personnes. Il est décrit genre vachard à moustache, c'est son expression, qui l'aborde et qui lui propose de prendre un verre. Ils ont quelque chose à lui montrer. Donc très vite arrive sur la table une enveloppe. Ensuite, des photos avec un contenu très explicite. On voit le jeune Romain Gary en compagnie d'une jeune femme dans une posture voilà que je vous laisse imaginer. Donc les deux hommes lui disent, écoutez, voilà ce que nous avons sur vous, monsieur le deuxième secrétaire, mais en tant que personne de bonne compagnie, on peut s'arranger, on peut trouver un arrangement, on va vous remettre les négatifs si vous voulez laver la honte de cet épisode. En revanche, quelques services de vous seront les bienvenus, notamment le chiffre avec lequel l'ambassade française à Sofia communique avec Paris. Sur ce, donc Romain Gary, 32 ans ou pas, qui leur dit, écoutez, je suis vraiment confus à la vue de ces photos, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Juste regardez un peu le détail de ces photos, c'est lui qui le dit, hein, il dit en termes de virilité, c'est pas le top, quoi. Donc je vous demande une deuxième chance. On va refaire ces photos, mais on va choisir une autre jeune femme, et là je vous promets que je serai à la hauteur de ce que vous imaginez d'un représentant d'une grande nation comme la France, d'un point de vue sexuel, s'entend. Sur ce, les deux hommes, vachard à moustache, aussi vachard qu'il soit, se liquifient devant tant d'audace, tourne les talons, et donc Romain Gary n'entend plus jamais parler de cette histoire. Il dit, lorsqu'il raconte cette histoire, qu'il aimerait bien quand même revoir ses négatifs, revoir ses photos, ne serait-ce que d'un point de vue nostalgique, parce que, dit-il, il doit certainement dormir quelque part dans les archives.
Alors voilà, c'est une histoire assez rocambolesque, burlesque, voire improbable, et qu'on imagine inventé par celui d'ailleurs qui n'en sera pas une mystification près. Rappelons à nos auditeurs et auditrices qu'il a écrit sous pseudonyme et gagné deux fois le prix Goncourt, entre autres. Mais en fait, cette histoire cache un fait réel, c'est qu'il y a bien eu un dossier Gary dans les archives de la sécurité bulgare. Il était donc surveillé très sérieusement.
Alors voilà, au moment où Romain Gary raconte pour la première fois cette histoire, nous sommes en 1980. Nous sommes presque à la fin de l'année et il se trouve que quelques semaines plus tard, il se suicide dans des conditions que que vos éditeurs connaissent déjà. En fait, à cette date-là, en 1980, il ne pouvait certainement pas imaginer qu'à peine une dizaine plus tard, donc ces régimes communistes allaient s'effondrer et que les archives de la police secrète allaient s'ouvrir et que n'importe qui, y compris lui, s'il avait été vivant, il aurait pu consulter son dossier, aller voir ce qu'il en était et éventuellement revoir ces fameuses photos. Et donc, à défaut de Romain Gary, c'est moi qui suis allé dans ces archives. Je vous passe les détails qui sont longs, assez rocambolesques là, pour retrouver ce dossier. Et je me suis retrouvé un beau jour de l'été dernier face au dossier Romain Gary.
À Sofia donc.
Bel et bien. À Sofia donc, dans les archives de la police communiste, il existe bel et bien un dossier Romain Gary. Il fait 160 pages. Donc je l'ai épluché, la première chose, vous pouvez imaginer, je me suis jeté dessus, je l'ai épluché dans tous les sens. Le premier constat était que ces photos n'existent pas. Il n'y a pas de trace de ces photos, ni de négatif, et surtout il n'y a pas de trace d'une quelconque tentative de chantage et de recrutement sur le diplomate français Romain Gary. Il y a tout à fait autre chose, mais pas ça.
En tout cas, il était bien surveillé, son entourage était infiltré, jusqu'à sa cuisinière, je crois, qui était censée espionner. Et puis, il y avait aussi cette jeune femme, Nadeja Nedi, une jeune bulgare, dont on ne sait pas s'il a été l'amant ou pas. En tout cas, il semblerait qu'il ait réussi à la sauver d'un séjour en prison. Est-ce que c'est bien le cas, Alexandre Lévy ?
Alors, ce dossier, justement, de 160 pages, ne raconte pas l'histoire que Romain Gary se plaisait à raconter. Elle raconte une autre histoire qui, pour moi, n'est pas moins terrible. C'est lorsque Romain Gary arrive à Sofia, s'installe avec son épouse, qui est une journaliste britannique et écrivaine, plus tard, Leslie Blanche. En fait, ils perdent très vite tout ce qui apparaît comme leur vie intime, leur vie personnelle. Ils vivent littéralement dans une maison de verre. Le dossier s'ouvre sur un croquis extrêmement bien détaillé de leur appartement et des fenêtres. Donc, ils ont été surveillés de l'extérieur, de l'intérieur et à chacun de leurs déplacements. À l'époque, il n'y avait pas de micro, mais tous les gens, tout le personnel de maison, et comme vous dites, y compris la cuisinière, rapportaient chaque mot qui se disait dans cette maison. Et surtout, la police secrète voulait absolument savoir qu'est-ce que cet homme-là écrivait tout le long de la journée. Et c'est pour ça qu'ils ont visiblement essayé de recruter celle qui est devenue sa secrétaire personnelle, donc Nadejda Trajanova, Nedi. Donc c'est une jeune femme qui apparaît très vite dans l'orbite de Romain Gary. Et elle est parfaitement francophone, elle fait partie d'une grande famille bourgeoise de Sofia, mais qui est tombée en disgrâce auprès du nouveau régime. Son père lui-même était ambassadeur de Bulgarie, mais en Pologne, mais ils sont sur le point d'être déportés. Donc lui, il la sauve déjà de la déportation en écrivant une lettre au ministre de l'Intérieur, en précisant qu'il est un écrivain français et une diplomate et qu'elle travaille pour lui. Ils avaient même pour projet de l'amener avec eux lorsqu'ils sont rentrés en France 2 ans plus tard, en 48. Mais là, le nouveau régime de Sofia a dit non à cette requête. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose entre Romain Gary, cette Nedi et même Leslie Blanche qui est restée comme ça, qui n'a pas été racontée par Romain Gary et que peut-être quelqu'un d'autre racontera. Moi, je l'ai fait, je n'ai fait que effleurer cette histoire. Mais après tout, je pense qu'il faut être romancier pour mieux la raconter.
En tout cas, c'est ainsi que se termine votre article à redécouvrir dans le nouveau numéro de Books en Bulgarie, dans le labyrinthe du dossier Gary, signé Alexandre Lévy. Merci encore.
Merci à vous.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire. Vous êtes jeune journaliste.